femmes, c'est pour vous que j'accorde ma lyre. Ô femmes, c'est pour vous qu'en mon brûlant délire, d'un usage orgueilleux bravant les vains efforts, je laisse enfin ma voix exprimer mes transports. Assez et trop longtemps la honteuse ignorance a jusqu'en vos vieux jours prolongé votre enfance. Assez et trop longtemps les hommes, égarés, ont craint de voir en vous des censeurs éclairés. Les temps sont arrivés, la raison vous appelle. Femme, réveillez-vous et soyez digne d'elle. Vous venez d'écouter les premiers vers de l'Épître aux femmes de Constance de Théis. Aujourd'hui c'est poésie, bienvenue dans la Voix des Lettres, épisode 22. S'il y a un nom qui ne cesse d'apparaître quand on s'intéresse au féminisme à l'époque de la Révolution française, c'est bien celui d'Olympe de Gouges. Bien que femme de lettres, elle est surtout connue pour ses écrits politiques, notamment la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, ou encore pour ses prises de position en faveur des droits civils des femmes et pour l'abolition de l'esclavage des Noirs. Elle est aujourd'hui largement reprise par les courants féministes et fait figure de pionnière de la lutte pour les droits des femmes. Mais aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à une de ses contemporaines, moins connue du public, Constance de Théis, qui a publié en 1797 l'Épître aux femmes. Si la nature a fait deux sexes différents, elle a changé la forme et non les éléments. Même loi, même erreur, même ivresse les guide. L'un et l'autre proposent, exécutent ou décident. Les charges, les pouvoirs entre deux divisés, par un ordre immuable y restent balancés. Mais déjà mille voix ont blâmé notre audace. On s'étonne, on murmure, on s'agite, on menace. On veut nous arracher la plume et les pinceaux. Chacun a contre nous sa chanson. Ces bons mots, l'un ignorant et sot vient avec ironie nous citer de Molière un vers qui l'estropie. L'autre, vain par système et jaloux par métier, dit d'un air dédaigneux, elle a son teinturier. De jeunes gens à peine échappés du collège discutent hardiment nos droits, leurs privilèges. Et les arrêts dictés par la fatuité, la mode, l'ignorance et la futilité, répétés en écho par ces juges imberbes, après deux ou trois jours sont passés en proverbe. En vain l'homme de bien, car il en est toujours, en vain l'homme de bien vient à notre secours. Leur prouve de nos cœurs la force, le courage, leur montre nos lauriers conservés d'âge en âge, leur dit qu'on peut unir grâce, talent, vertu, que Minerve était femme aussi bien que Vénus. Rien ne peut ramener cette foule en délire, l'honnête homme se tait, nous regarde et soupire. Voilà qui pourrait être repris presque mot pour mot aujourd'hui. Dans un style très classique d'alexandrin en rime suivi, Constance de Théis commence en dénonçant l'exclusion des femmes de la scène culturelle, en l'occurrence la peinture et la littérature. On veut nous arracher la plume et le pinceau. Elle condamne ensuite les critiques faites aux femmes par les hommes, en particulier quand ceux-ci sont moins compétents. C'est le très populaire mansplaining, un anglicisme qui désigne une situation où un homme explique à une femme quelque chose qu'elle sait déjà, voire dont elle est experte, sur un ton paternaliste ou condescendant. En alexandrin, ça donne « L'un, ignorant et sot, vient avec ironie nous citer de Molière un vers qui l'estropie. » Et les analogies ne s'arrêtent pas là. On retrouve aussi le « not all men », littéralement « pas tous les hommes », que ceux qui pensent bien faire brandissent pour excuser leur indifférence à la cause. Déjà en 1797, Constance de Théis écrit « En vain l'homme de bien, car il en est toujours, en vain l'homme de bien vient à notre secours. » Et dans l'extrait qui suit, c'est à la maternité et au partage du congé parental que s'attaque l'autrice. Mais quel nouveau transport, quel changement soudain! Armé du sentiment, l'homme paraît enfin. Il nous crie « Arrêtez, femme, vous êtes mère, à tout plaisir sitôt rendez-vous étrangère, de l'étude et des arts la douce volupté deviendrait un larcin à la maternité. Ô nature, ô devoir, que c'est mal vous connaître, l'ingrat est-il aveugle ou bien feint-il de l'être? Feint-il de ne pas voir qu'en ces premiers instants où le ciel à nos vœux accorde des enfants, tout entière aux soins que leur âge réclame, tout ce qui n'est pas eux ne peut rien sur notre âme? Feint-il de ne pas voir que de nouveaux besoins nous imposent bientôt de plus glorieux soins et que pour diriger une enfance timide, il faut être à la fois son modèle et son guide. Oublieront-ils toujours ces vains déclamateurs qu'en éclairant nos yeux, nous éclairons les leurs ? Et quel maître jamais vaut une mère instruite ? Sera-ce un pédagogue enflé de son mérite, un mercenaire avide, un triste précepteur ? Ils auront ses talents, mais auront-ils son cœur ? Disons tout. En criant « Femme, vous êtes mère », cruelle, vous oubliez que les hommes sont pères, que les charges, les soins sont partagés entre eux, que le fils qui vous naît appartient à tous deux, et qu'après les moments de sa première enfance, vous devez plus que nous soigner son existence ? Ah, s'il était possible, et le fut-il jamais, qu'une mère un instant suspendît ses bienfaits, un cri de son enfant, dans son âme attendrie, réveillerait bientôt la nature assoupie. Mais l'homme tourmenté par tant de passions, accablé sous le poids de ses dissensions, malgré lui, malgré nous, à chaque instant oublie qu'il doit plus que son cœur à qui lui doit la vie, et que d'un vain sermon les stériles éclats des devoirs paternels ne la quitteront pas. On pourrait continuer ainsi longtemps, puisque le poème ne fait pas moins de 300 vers. C'est 3 fois plus long que le bateau ivre, et il faudrait presque 20 minutes pour le déclamer entièrement. Je vous invite donc à aller le lire dans son intégralité. Vous y trouverez de très beaux vers, d'autres arguments, et aussi de nombreuses nuances qui montrent que l'autrice ne prétend pas renverser la société patriarcale du jour au lendemain, mais plutôt faire infuser les revendications féministes à travers l'éducation et l'instruction. On peut même y voir, en germe, le rejet de l'injonction paternaliste « Protégez vos filles » au profit du slogan féministe « Éduquez vos fils ». Le poème se termine sur un appel à la libération de la parole des femmes qui ne pourrait être plus actuelle. Ô femmes qui brûlez de l'ardeur qui m'anime, cessez donc d'étouffer un transport légitime. Des hommes dédaignés l'ambitieux courroux, ils ne peuvent juger ce qui se passe en vous. Qu'ils dirigent l'État, que leurs bras le protègent, nous leur abandonnons ce noble privilège, nous leur abandonnons le prix de la valeur, mais les arts sont à tous, ainsi que le bonheur. Avant de conclure cet épisode, disons quelques mots de Constance de Théis. Née en 1767, elle se fait connaître dès ses 18 ans pour ses poèmes. En 1793, Robespierre et les Montagnards instaurent un gouvernement révolutionnaire, répressif et très sanglant. C'est la fameuse Terreur, sous laquelle Olympe de Gouges, entre autres, est guillotinée pour son opposition à la dictature en place. Constance de Théis a alors 26 ans et fuit la capitale. Elle se rapproche en 1795 des milieux artistiques et est alors célèbre pour ses très beaux éloges funèbres. En 1797, un poète s'adresse aux femmes en écrivant « Voulez-vous ressembler aux muses, inspirez, mais n'écrivez pas ». Il n'en faut pas plus pour révolter Constance de Théis, qui publie alors l'Épître aux femmes, qui rencontre un franc succès. Elle tiendra ensuite un salon littéraire très réputé et continuera à écrire jusqu'à sa mort, en 1845, à l'âge de 77 ans. Elle laisse derrière elle une œuvre considérable, principalement composée de poésie, sous des formes très diverses, depuis des sonnets classiques jusqu'à un poème intitulé « Mes 60 ans », retraçant sa vie, son histoire littéraire et ses luttes politiques en, accrochez-vous bien, 12 000 vers, ce qui doit faire une petite centaine de pages. Laissons cela aux plus courageuses et aux plus courageux et réécoutons plutôt une version tronquée de l'Épître aux femmes. Ô femmes, c'est pour vous que j'accorde ma lyre. Ô femmes, c'est pour vous qu'en mon brûlant délire, d'un usage orgueilleux bravant les vains efforts, je laisse enfin ma voix exprimer mes transports. Assez et trop longtemps, la honteuse ignorance a jusqu'en vos vieux jours prolongé votre enfance. Assez et trop longtemps, les hommes, égarés, ont craint de voir en vous des censeurs éclairés. Les temps sont arrivés, la raison vous appelle. Femmes, réveillez-vous et soyez dignes d'elle. Si la nature a fait de sexes différents, elle a changé la forme et non les éléments. Même loi, même erreur, même ivresse les guide. L'un et l'autre proposent, exécutent ou décident. Les charges, les pouvoirs, entre deux divisés, par un ordre immuable, y restent balancés. Mais déjà mille voix ont blâmé notre audace. On s'étonne, on murmure, on s'agite, on menace, on veut nous arracher la plume et les pinceaux. Chacun a contre nous sa chanson, ces bons mots. L'un, ignorant tes sots, vient avec ironie nous citer de Molière un vers qui l'estropie. L'autre, vain par système et jaloux par métier, dit d'un air dédaigneux, elle a son teinturier. De jeunes gens à peine échappés du collège discutent hardiment nos droits, leurs privilèges. Et les arrêts dictés par la fatuité, la mode, l'ignorance et la futilité, répétés en écho par ces juges imberbes, après 2 ou 3 jours sont passés en proverbe. En vain l'homme de bien, car il en est toujours, en vain l'homme de bien vient à notre secours, leur prouve de nos cœurs la force, le courage, leur montre nos lauriers conservés d'âge en âge, leur dit qu'on peut unir grâce, talent, vertu, que Minerve était femme aussi bien que Vénus. Rien ne peut ramener cette foule en délire, l'honnête homme se tait, nous regarde et soupire. Mais ô Dieu, qu'il soupire et qu'il gémit bien plus, quand il voit les effets de ce cruel abus, quand il voit le besoin de distraire nos âmes, se porter malgré nous sur de coupables flammes. Quand il voit ces transports que réclamaient les arts, dans un monde pervers offenser ses regards, et sur un front terni la licence funeste, remplacer les lauriers du mérite modeste. Ah, détournons les yeux de cet affreux tableau. Ô femme, reprenez la plume et le pinceau. Laissez le moraliste, employant le sophisme, autoriser en vain l'effort du despotisme. Laissez-le, tourmentant des mots insidieux, dégrader notre sexe et vanter nos beaux yeux. Laissons l'anatomiste, aveugle en sa science, d'une fibre avec art calculer la puissance, et du plus et du moins inférer sans appel que sa femme lui doit un respect éternel. La nature a des droits qu'il ignore lui-même. On ne la courbe pas sous le poids d'un système. Aux mains de la faiblesse, elle met la valeur. Sur le front du superbe, elle écrit la terreur. Et dédaignant les maux de sexe et d'apparence, pèse dans sa grandeur les dons qu'elle dispense. Mais quel nouveau transport, quel changement soudain! Armé du sentiment, l'homme paraît enfin. Il nous crie « Arrêtez, femme, vous êtes mère. À tout plaisir sitôt rendez-vous étrangère. » De l'étude et des arts, la douce volupté deviendrait un jour larcin à la maternité. Ô nature, ô devoir, que c'est mal vous connaître. L'ingrat est-il aveugle, ou bien feint-il de l'être? Feint-il de ne pas voir qu'en ces premiers instants, où le ciel à nos voeux accorde des enfants, tout entière aux soins que leur âge réclame, tout ce qui n'est pas eux ne peut rien sur notre âme? Feint-il de ne pas voir que de nouveaux besoins nous impose bientôt de plus glorieux soins et que pour diriger une enfance timide, il faut être à la fois son modèle et son guide. Oublieront-ils toujours ces vains déclamateurs qu'en éclairant nos yeux, nous éclairons les leurs et qu'elle maître jamais vaut une mère instruite? Sera saint pédagogue, enflé de son mérite, un mercenaire avide, un triste précepteur? Ils auront ses talents, mais auront-ils son cœur? Disons tout. En criant « Femme, vous êtes mère », cruelle, vous oubliez que les hommes sont pères, que les charges, les soins sont partagés entre eux, que le fils qui vous naît appartient à tous deux, et qu'après les moments de sa première enfance, vous devez plus que nous soigner son existence. Ah, s'il était possible, et le fut-il jamais, qu'une mère un instant suspendît ses bienfaits, un cri de son enfant dans son âme attendrie réveillerait bientôt la nature assoupie. Mais l'homme, tourmenté par tant de passions, accablé sous le poids de ses dissensions, malgré lui, malgré nous, à chaque instant oublie qu'il doit plus que son cœur à qui lui doit la vie, et que d'un vain sermon les stériles éclats, les devoirs paternels ne l'acquitteront pas. Ô femme, qui brûlez de l'ardeur qui m'anime, cessez donc d'étouffer un transport légitime. Des hommes dédaignez l'ambitieux courroux, ils ne peuvent juger ce qui se passe en vous. Qu'ils dirigent l'État, que leurs bras le protègent, nous leur abandonnons ce noble privilège, nous leur abandonnons le prix de la valeur, mais les arts sont à tous, ainsi que le bonheur. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, je vous invite à partager autour de vous, à me suivre sur les internets, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Voix des Lettres.